Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
Alors, dans ce documentaire de Aude Pépin, elle s'applique avec Chantal Birman à rendre public le suicide de la jeune mère. Alors, si le postpartum reste aujourd'hui tabou, le suicide de la jeune mère se pose en tabou du tabou. Deuxième cause de mortalité à 0,2% près avec les maladies cardiovasculaires, il est très rare d'entendre parler de ce phénomène.
Bah, on a été, enfin, les premiers à le révéler avec le film, quelque part, au grand public, en tout cas, à le poser sur la table. C'est hallucinant, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il était nécessaire de faire un film comme celui-ci. C'est-à-dire que, finalement, le manque de moyens mis dans l'accompagnement, conjugué à l'éclatement des cellules familiales, à l'automisation de la cellule familiale, puisque, voilà, on ne vit plus aujourd'hui en règle générale avec sa mère, avec sa grand-mère, avec ses tantes, etc. Plus, comme je dis souvent, l'espèce d'idée qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est quand même très portée sur l'immédiateté, c'est-à-dire que on prévoit tout, les choses doivent se résoudre immédiatement. Justement, la vitesse de connexion Internet, les informations qu'on a directement participent complètement à ça, font qu'on est dans un très mauvais cocktail à mon sens, et font que voilà, évidemment, moi je ne pose pas les pouvoirs publics comme unique responsable, et d'ailleurs pas ceux de ce gouvernement-là particulièrement, puisque c'est le seul quand même qui s'attaque aux 1000 jours, justement quand même qui porte une attention très particulière à la naissance et à l'après-naissance, même si de mon point de vue, malheureusement, on va rencontrer Adrien Taquet avec Chantal, on lui fait une projection, et il m'a écrit d'ailleurs sur Instagram, c'est ça qui est assez rigolo, pour me dire qu'il veut absolument voir le film et qu'on discute. Donc voilà, il y a quand même des gens, des ministres, voilà, qui vous écrivent pour dire voilà, ça m'intéresse, j'ai envie qu'on en discute, ça c'est quand même extraordinaire, c'est quand même pas si courant, cette politique en termes de manque d'argent mis dans la maternité n'est pas seulement du tout une politique macronienne, c'est une politique qui a glissé sur un tas de gouvernements avant, et dont lui aussi récolte les fruits, quoi, ça c'est clair. Donc, si vous voulez, ce manque d'argent, ce manque de pensée autour de la maternité et de l'après-naissance, c'est-à-dire d'avoir complètement médicalisé ce moment-là au lieu de le prendre comme il est physiologique, et du coup de l'avoir pathologisé, donc de l'avoir fait rentrer aussi sous le diktat médical, avec ce que ça incombe comme hiérarchisation, et que nous les femmes finalement on arrive en bout de course là-dedans, et à mon avis c'est multifactoriel, voilà, et on arrive effectivement à des femmes qui se sentent extrêmement seules parce que justement leur conjoint, en plus que de leur famille, n'est pas là, il n'y a pas d'accompagnement suffisamment proposé, il y a en même temps une multitude d'informations, on a l'impression qu'on ne sait plus où on en est, ça amène aujourd'hui tous ces facteurs à, effectivement, le suicide étant la première au coude à coude à 0,2% cause de mortalité, enfin, c'est la deuxième cause à 0,2% a priori, avec les maladies cardiovasculaires extrêmement mal diagnostiquées aussi chez la femme. Donc c'est effectivement très très grave, et alors maintenant ils ont des cours de santé publique, comme le dit Hortense, un des personnages du film, où c'est dit, voilà. Ah bon, bah alors ça serait ça. Sauf que voilà, du coup, il est temps de passer du dire aux actes, et d'essayer de faire changer les choses en proposant, au moins en revisitant l'accompagnement postnatal, et même, je dirais même, l'accompagnement des familles dans leur globalité. Ça c'est certain, c'est une urgence.
Alors, quel rôle, selon vous, mesdames, doit jouer la sage-femme ou la doula dans le postpartum, dans cet accompagnement Aude Pépin décrit comme une urgence?
L'accompagnement, le soutien.
Dans un monde idéal, hein, bien sûr. Si vous aviez tout le temps et tous les moyens à disposition, ce serait quoi?
Postnatal?
Ouais.
En fait, déjà, quand même, on fait des choses. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des visites postnatales, en général, on les fait 48 heures, voire des fois 24 heures après leur sortie.
Je te coupe, ouais. Françoise, à l'instant. Ouais. Simplement, est-ce que la durée de séjour pourrait simplement ne pas se résoudre à 24 heures et personne derrière disponible pour s'occuper d'elle? On va partir de ça déjà, parce que le séjour en maternité, il s'est réduit peau de chagrin sur la fermeture des lits qui s'est accélérée franchement là depuis quelques semaines. Rien que ça, déjà, si les dames, elles avaient le temps de rester... Et effectivement, de partir plus tôt si derrière, il y a tout un réseau disponible et fourni qui les attendent.
Normalement, elles sortent pas à 24 heures pour le moment. Hein. On est bien d'accord, elles sortent à 48 heures.
Attends.
En sortie précoce. Nous en sommes là. Et parfois, donc, on compte pas le jour de l'accouchement et elles sortent au troisième jour. Donc, c'est vrai que, ben, du coup, quand on arrive, c'est vrai que si on l'a connu en amont, c'est plus simple parce qu'on a déjà dépisté des fragilités, des choses comme ça. Donc, et puis, on sent qu'il y a une confiance qui s'est installée. Elle nous connaît et ça va aller beaucoup plus vite. Mais on va toujours parler du vécu de leur accouchement, hein, parce que ça compte énormément. Et puis après, comment vous vous sentez? Et puis, comment ça se passe avec votre bébé? Enfin, on va poser des questions pour voir. Donc, non seulement on fait toute la partie technique, ça c'est évidemment, mais on va voir aussi comment elle se sent et tout ça. Donc, une visite à domicile, c'est facilement une heure et demie. Hein. Et puis, si ça va pas... moi, ça m'est arrivé de suivre une dame qui était pas bien, et tous les deux jours, j'y allais. En fait, elle voulait pas voir une psychologue, elle me connaissait bien, elle me dit « Non, vous me suffisez, ok ?» Donc j'y allais, et elle parlait. Elle disait tout ce qu'elle ressentait, elle pouvait pas supporter que son mari aille dans le jardin. Pour elle, ça y est, elle se retrouvait seule avec son bébé et que ça allait être une catastrophe. Donc, j'ai un moment, je me suis dit « Mon Dieu, mais est-ce que je fais bien les choses ?» etc. Et puis, je suis arrivée... Au bout de 15 jours, j'arrive, elle ouvre la porte, elle avait un sourire jusque derrière les oreilles, elle m'a dit « ça y est, c'est fini ». Voilà, elle avait fini cette phase délicate. Et en fait, effectivement, souvent quand même, il y a une histoire familiale, il y a une fragilité de l'enfance, des choses comme ça. Donc quand on parle du suicide et tout ça, il faut quand même aussi modérer, quoi, savoir qu'il y a, voilà, il y a des choses, une fragilité derrière. Pas toutes les femmes qui ont eu un parcours affectif classique vont avoir des idées suicidaires, etc. Donc voilà.
Mais en tout cas, c'est l'accompagnement et ce fameux village dont je parle aussi, Marine, d'arriver à recréer ce que tu disais aussi, Sophie, cet environnement familial qu'il y avait jusqu'à il y a encore quelques années et d'entourer vraiment les femmes qui accouchent.
Tout à fait.
Enfin, les personnes qui accouchent.
Tout à fait. Alors,
après. Pour sentir ça, il faut aussi, ça prend énormément de temps entre gagner la confiance pour qu'elle puisse aborder certains sujets, pour qu'on puisse justement aller dépister qu'il y a une fragilité et qu'il va y avoir.
Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce qu'en fait, je me rends compte que elles ont qu'une envie, c'est de parler et de dire ce qui va pas. Donc, en fait, c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on passe à côté parce que on va banaliser en disant « mais non, c'est normal, tout va bien, etc. » Et en fait, il faut pas banaliser. Il faut les laisser déverser tout ce qu'elles ont à dire. Et puis, on voit... Et puis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quelque part, il y a une capacité de résilience qui est quand même assez intéressante. Elles ont une hypersensibilité qui fait qu'elles sont hyper connectées à leur bébé et aussi une capacité à rebondir, c'est-à-dire elle était au fond du trou. Deux jours après, j'y vais en me disant « mon Dieu, comment je vais la retrouver ?» Hop, ça y est, ça va mieux ce que vous m'avez raconté ou ce qu'on s'est dit et tout ça. Des fois, j'ai rien dit. Hein. elles me disent « Oh, ça va beaucoup mieux » ou « j'ai discuté avec mon mari », etc. Il y a aussi le conjoint qui, des fois, réalise pas les choses et il suffit. Alors, des fois, c'est rigolo parce qu'on a l'impression d'être au milieu des deux. Mais il fait pas ça et lui, pas ça et machin. Et puis, finalement, on discute, on dit « Et ils trouvent, ils en reparlent et ils trouvent une solution, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Mais en fait, il faut les écouter. C'est tout, mais tout le temps de la grossesse, tout le temps du postnatal, il faut écouter,
Et les écouter, il faut effectivement, comme le disait Sophie à l'instant, aussi un peu de temps. À la suite des assises de la santé mentale qui se sont tenues les 27 et 28 septembre 2021, Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, a annoncé un entretien à 5 semaines post-accouchement pour repérer éventuellement des femmes fragiles et qui seraient susceptibles de faire une dépression post-partum. Et pour ces femmes-là seulement, un deuxième entretien à 12 semaines après l'accouchement si les risques s'avèrent présents. Ces deux entretiens, Ilana Weisman, dont on a parlé un petit peu depuis le début de cette émission, qui est militante féministe, sociologue et qui s'intéresse à ces questions de postpartum, estime que non, c'est pas du tout assez. Vous, ici autour de cette table, je vois Marine qui fait non, vous êtes d'accord, ça c'est pas suffisant.
En fait, pour moi, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pas au cœur du problème. En fait, ce dont on aurait besoin, c'est que les sages-femmes et tous les professionnels qui accompagnent les futurs parents et nouveaux parents, ils aient du temps, tout simplement. On a besoin de temps. Comme le disait Françoise, on a besoin de temps pour être, pour ouvrir des espaces d'écoute. Et c'est pas, parce que cet entretien-là, il va être mené par une personne qui va pas forcément avoir une relation avant avec la future ou la nouvelle mère. Et du coup, c'est difficile de parfois d'être entendu ou de se livrer auprès d'une personne qu'on ne connaît pas. Ce qu'il faut, pour moi, c'est vraiment avoir une relation de confiance, et c'est pas en un entretien qu'on va à ouvrir des espaces d'écoute.
Et simplement, 5 semaines, c'est déjà trop tard.
Exactement.
Bon, vas-y toi.
Ouais. Enfin, c'est tard. Il y a effectivement, on peut mettre en place le suivi avec le passage d'une sage-femme libérale qui est présente sur les premières semaines. Mais 5 semaines, c'est beaucoup trop tard. C'est dès la fatigue, le chamboulement hormonal et tout ce qui se passe dans la révolution qui arrive à la maison avec l'arrivée d'un enfant. C'est 5 semaines, il y a déjà beaucoup de choses qui sont jouées.
Et pour certaines, ça peut être aussi trop tôt, parce que le pic, selon la plupart des experts, c'est autour de 3 mois, le pic de la dépression du postpartum. Et 5 semaines, on n'est pas du tout à 3 mois.
Oui, tout à fait. En fait,
défaut d'attachement.
Moi, je dis je pense que vraiment, il faut une relation déjà qu'il y a un lien avant. En prénatal, pendant la grossesse, avec une personne avec laquelle elle se sent bien. Pour pouvoir après savoir qu'il y a cette personne ressource là. Je me rappelle, moi j'ai fait des cours à Bordeaux sur le postpartum et les problèmes psychologiques, etc., avec Valérie Sutter, qui est un médecin qui s'occupe de ça, qui est extraordinaire. Et elle disait, en fait, vous n'êtes pas obligé de diriger tout le temps les femmes vers des psychologues. Non, il suffit d'être là et qu'elle ait une figure de référence, de confiance. Et en fait, moi, je vois des fois, elles vont débarquer chez moi à 3 semaines après l'accouchement. Je n'étais pas retournée les voir parce que tout allait bien. Et elles débarquent en pleurant, en me disant, ça ne va pas du tout.
Donc, oui, parce qu'il y a eu ce lien qui s'est créé en amont.
Elles me connaissent, elles m'ont eu en préparation à l'accouchement, elles m'ont eu en post-natal. Et je leur dis, moi, vous n'allez pas bien, vous m'appelez. Si vous avez envie, si vous êtes en confiance avec moi, vous m'appelez. Après, on verra. On va peut-être effectivement diriger. Hein. Faut pas non plus. On n'a pas tous les capacités. Mais c'est ça qu'elles ont besoin de savoir, qu'il y aura une personne qui va pas juger ou critiquer, ou parce que des fois elles se tournent vers leur mère ou vers mais qui va lui dire, mais enfin, pourquoi t'es malheureuse, tout va bien, t'as eu un beau bébé et ton accouchement s'est bien passé et tout va bien. Donc il leur faut une personne avec qui elles peuvent communiquer sans se sentir jugées. Et ça se crée, effectivement, ça crée une alliance, et ça se fait en amont.
Aude Pépin parle aussi d'une hiérarchisation due à la médicalisation et qui impliquerait que les femmes se retrouvent en bout de course. Ça, c'est quelque chose que vous constatez. Peut-être on a parlé déjà de T2A, de choses comme ça, de manque de temps. C'est quelque chose que...
Ouais, c'est tout le reflet de la société, c'est rentabilité. Donc, je rejoins ce que disait Françoise tout à l'heure. Dans cette société où on parle de prévention, 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 les moyens ne sont pas donnés pour la faire, puisqu'il faut aller vite, être rentable. Alors que, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas terrible, mais ça vaut le coup de perdre un peu de temps et de parler plus longtemps que ce qui est prévu au départ pour en gagner beaucoup plus après. Et on en revient à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Si la base, les fondements sont solides, eh bien, ça va loin, quoi. Je vais me redire si je continue à parler, mais pour moi, oui, ça vaut le coup de se poser avant même une grossesse, de discuter. Ça vaut le coup, mais sur un suivi de femmes, suivi gynéco pur, les femmes découvrent que quand on est en consultation avec une sage-femme, ben on a le temps de parler et de parler de ses inquiétudes, de ses problèmes qui finalement à la fin n'en sont pas, mais qui ont créé beaucoup d'inquiétudes. Et on est simplement ouais. Moi, je dis toujours, on est des filles, on est un groupe et il faut qu'on se soutienne. Je remettrai une petite aparté sur Simone Veil qui nous manque.
Alors, on a évoqué déjà le rapport d'Émile Jours qui s'inspire de politiques de pays du pays du nord, de nord de l'Europe. Est-ce que donc vous avez pu jeter un œil les unes les autres à ce rapport d'Émile Jours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et ce qu'il préconise? C'est un rapport qui a été présidé par Boris Cyrulnik, qui est neuropsychologue, je crois.
Neuropsychiatre.
Neuropsychiatre, pardon, j'ai perdu mes notes.
Bah, oui, l'idée, c'est que un enfant a besoin de la proximité de ses parents pendant jusqu'à 2 ans. Parce que, alors, on parle, oui, là, juste dire, c'est inspiré des pays nordiques, mais on oublie que les pays nordiques, elles ont 6 mois de congé postnatal. Nous, on va prendre les 1000 premiers jours, mais on ne met pas en place tout ce qui va avec. L'idée, c'est d'apporter, dès le 4e mois de grossesse, donc ce qui veut dire une grossesse le plus moins stressant possible, hein, même si on vit évidemment qu'on ne va pas se mettre dans une bulle et s'isoler du monde, mais comment faire en sorte que la grossesse soit le plus zen possible, parce que ça commence là, les 1000 premiers jours, et après, jusqu'à 2 ans, ben, c'est l'idée de comment accompagner un bébé, écouter ses pleurs, c'est tout ça, c'est mettre un socle, donner une sécurité de base qui va compter pour, a priori, toute sa vie, quoi.
Et en tant que maman aussi, ici, autour de la table, cette politique-là, qu'est-ce que vous en pensez ?
Que c'est essentiel d'avoir des conditions favorables pour pouvoir, au-delà de l'envie de maman d'être présente et de pouvoir répondre à toutes les attentes de son enfant, de toujours s'inquiéter. On s'inquiétera toute notre vie pour leur sécurité, pour leur évolution. On sera toujours dans les meilleures intentions. Mais après, il y a effectivement le poids de la société, de la charge mentale, qui font que, bah, qu'on fait ce qu'on peut au moment où avec les conditions du moment. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail pour améliorer ces conditions. Et ça, y a des choses sur lesquelles on a la main et on peut être décideur de certaines choses. Et puis il y a des choses pour lesquelles on est complètement tributaire de du monde dans lequel on vit, des différentes professions, de l'entourage qu'on peut avoir, que ce soit amical, familial, et de toutes les idées reçues qui se baladent sur tout un tas de choses. Et des choses qu'on a oubliées, fondamentales, ancestrales, et qui sont tellement évidentes dans d'autres pays qu'on se dit comment c'est possible qu'on se soit tant éloigné de tout ça. Voilà, mais c'est essentiel. Sinon, on recourt à la boîte de Lexomil dont je parle régulièrement, qu'il ne faut évidemment pas toucher.
11h passées de 36 minutes sur les ondes de Radio MDM, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre crew de sages-femmes et doulas.
MDM, bienvenue sur la moins pénible des radios.